Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans et je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Pour ce nouvel épisode, mon invitée est Éliane Lafage, œnologue et cofondatrice du domaine Lafage dans les Pyrénées-Orientales en Roussillon. Sa passion pour les parfums l'amène à étudier l'œnologie. À la faculté de Montpellier, elle rencontre Jean-Marc Lafage, qui deviendra son mari, son associé. DNO en poche, le diplôme national d'œnologie, durant 10 ans, elle s'envole pour vinifier dans les 4 plus grands vignobles du monde. Quels impacts ont eu ces voyages sur l'œnologue et la femme Éliane? Quelles influences ces expériences ont eues sur son leadership et sa place en tant que femme? Quels obstacles a-t-elle dû surmonter? Vous entendrez la parole d'une femme qui, à 40 ans, par nécessité fondamentale, décide d'être à l'écoute d'elle-même en reprenant des études pour un métier qu'elle exerce encore et en parallèle, un métier non des moins surprenant, mais complémentaire. De nature discrète et d'une grande humilité, Éliane a livré dans cet épisode une part féminine dont ce podcast est fier de diffuser le contenu. Toute ma gratitude à cette femme inspirante et accueillante qui s'est rendue disponible, surtout en pleine vendange. Ensemble, écoutons une nouvelle déesse.
Donc je m'appelle Éliane Lafage et je suis œnologue de formation. Nous avons avec mon mari le domaine Lafage à Perpignan, voilà, que nous avons créé il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années et qui s'est pas mal développé sur ces 20 ans. Voilà, en fait, au début, j'ai eu un parcours en fait de winemaker, de vinificatrice, œnologue, un petit peu partout dans le monde. Et en parallèle, du coup, on commençait à reprendre les vignes de la famille Lafage. Vraiment, le domaine Lafage a démarré il y a 22, 23 ans. Après mon diplôme d'œnologue, je suis partie en Californie. En fait, quand je suis rentrée en œnologie, pour moi, c'était d'un coup venu, mais les voyages, la Californie, le vin dans le monde, en fait. Vraiment, c'est quelque chose que je ne demandais rien dans ma tête, ça me venait. Je dis, oui, c'est ça que je veux faire, en fait. Et ça, fin de mon diplôme d'œnologue, je suis partie aux États-Unis travailler, en fait, pour le plus gros négociant au monde qui s'appelle Gallo. Et c'était une expérience fabuleuse. Donc, on travaillait je suis partie avec donc, Jean-Marc au départ, qui était donc mon compagnon. Et on avait la chance de travailler dans ce qu'ils appellent le pilot plant. C'était vraiment le centre d'expérimentation, mais qui faisait quand même quasiment 2000 hectos de vin. et voilà, avec une expérience déjà. Et ensuite, le DESS. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec un Néo-Zélandais dans un domaine à Béziers. Et lui m'a donné des contacts pour partir en Australie. Et je suis partie en Australie comme ça.
D'accord, donc hémisphère sud maintenant.
Hémisphère sud, ça c'était juste après du coup mon DESS.
Et c'était un peu la même chose qu'en Californie, enfin, au niveau de tes rôles, de tes fonctions dans les caves.
Ben là, c'était, en fait, je travaillais comme caviste. Je travaillais dans la cave à tout faire. Hein. Voilà. D'accord. À faire les remontages, tirer des manches, remplir des barriques. Enfin, vraiment, le travail de... Bon, la cave était une petite cave, donc c'était très intéressant. Mais voilà, c'était vraiment... Au début, j'ai commencé, je lavais les cuves, je faisais tout le travail et je me régalais, en fait. Voilà, c'était vraiment...
Et comment, dans ces cultures-là, qu'elles soient américaines ou australiennes, comment... toi, tu arrives, donc ça fait plus de 20 ans. Une jeune femme arrive, la culture du vin dans ces pays-là.
Alors la culture du vin, je pense que ça a été vraiment ce qui m'a une expérience très enrichissante et un peu formatrice dans l'esprit. C'était la pensée là-bas était différente, c'est-à-dire on a des raisins, on veut obtenir tel vin. Voilà, on a une idée du vin qu'on veut obtenir et comment. Quels moyens on se donne, quelle vinification on met en place, quel process pour l'obtenir, en fait.
D'accord. C'était
pas
différent.
Voilà, c'était pas l'idée de. En France, c'était un peu on fait du vin et après on débrouillera pour le vendre, en fait. Là, non, il y avait vraiment voilà, ce travail aussi de préserver les raisins avec du froid, avec des gaz, avec. Voilà, on a une jolie matière première, on va vraiment tout mettre en place pour la protéger et arriver à ce qu'on veut. Voilà, on veut un vin fruité, on veut avoir plus de matière, ou on veut vraiment avoir de la structure, on va macérer plus longtemps. Il y avait vraiment quelque chose d'un petit peu plus... Alors, on va dire, ça peut être péjoratif, ça l'était à l'époque, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais un peu technologique ou un peu... Mais en fait, une science vraiment de l'œnologie qui était, moi, c'était totalement nouvelle et qui m'a appris... En fait, j'ai appris le vin là-bas, quoi.
D'accord.
Voilà, et cette manière d'apprendre le vin, de le concevoir, de l'appréhender, c'était bien aussi de... Chaque fois que je revenais en France, enfin, ou dans les PO, c'était de se dire, mais finalement... ici on a aussi un très beau potentiel de raisin, on a des vieux cépages, on a des choses, on a de la tradition, et comment on peut allier ces deux choses. En fait, je trouve que ça m'a permis d'avoir de mettre plein de choses dans ma boîte à outils, mm-hmm. en fait, et après de faire le tri, de se dire mais ça je peux l'appliquer, je peux pas l'appliquer, il y a du bon, il y a du mauvais, ce que j'ai appris en France, ce que j'ai appris dans les caves en France de manière plus traditionnelle ou plus empirique. Et de choses de plus technologiques, et comment on fait un mix des deux, en fait. Mm-hmm. Voilà, si on veut utiliser la macération carbonique qui est traditionnelle ici, on va le faire. Si sur mes blancs, ben, je veux mettre plus de froid, etc., ben, pour protéger mes muscats, pour pas qu'ils s'oxydent et pour pas perdre l'aromatique, ben, ça, je vais l'utiliser, parce que moi, travailler des muscats à l'ancienne et perdre le fruit, mm-hmm. ça m'intéresse pas. Donc,
ça ne plaît pas forcément plus aux consommateurs.
Voilà, et du coup, je pense que c'est ça qui a permis, qui a fait un mix, en fait, et... Et de se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir au fond? Moi, j'aime les arômes et j'ai une sensibilité particulière voilà, à l'aromatique, au gustatif, à la finesse des blancs. Voilà, moi, j'adore les sauvignons, j'adore toutes ces choses qui sont, voilà, après...
Un peu tiolées,
tendues. Enfin, voilà, c'était vraiment ce que j'aimais aussi.
C'était néo-zélandais.
Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on a amené aussi sur nos verres... quand on a démarré ici, quoi.
D'accord. Donc, voyage aux États-Unis, voyage en Australie.
Après, l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, ok.
Voilà.
Magnifique.
Après, j'ai eu... Alors, là aussi, ça a été le hasard qui m'a amené au Chili. C'était le début d'une grande aventure au Chili. Parce que je travaillais... En fait, je postulais pour travailler pour Jacques Lurton, en France. Mmh. Et donc, on ne m'avait pas embauché pour le poste français, mais comme j'étais dans les deux derniers, en fait, il m'a proposé de partir vinifier au Chili pour lui, qui était consultant dans une grosse cave, et donc je suis partie.
Mm-hmm. Tu n'étais pas maman à l'époque, là ?
Non, je n'étais pas maman. Donc, je suis partie pour lui. C'était une super expérience, pareil, une grosse, grosse cave au Chili. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup appris.
Tu es restée longtemps ?
Là, je suis partie 3 mois, juste pour la période des vinifications. Et je suis... Bon, j'ai voyagé parce que j'ai une amie qui m'a rejoint là-bas. Donc là, on a fait la Patagonie, on a fait un beau voyage.
On a profité. Hein.
Voilà, carrément. Et l'année d'après, bon, entre-temps, j'avais travaillé sur Béziers. Et l'année d'après, c'est un ami à nous qui m'appelle et qui me dit « Je devais partir pour une grosse cave sur le Chili. Je ne peux pas partir. Est-ce qu'il n'y a pas un de vous deux, qui parlait Jean-Marc et moi, qui peut me remplacer ?» Et j'ai dit « Ah oui, moi je pars. » Et ça s'est fait en 15 jours. J'ai fait mon passeport en 2-2 et je suis partie pour travailler pour Santa Rita au Chili. Et pareil, là-bas, j'étais responsable d'une cave qui faisait 110 000 hectos de blanc. Et on m'a dit « Voilà, tu dois... voilà, on veut travailler de cette manière, un petit peu ce que j'avais appris entre-temps au Chili et en Australie. » Voilà, c'était un énorme challenge, franchement.
Les clés de la cave, on veut ça à la fin.
Un peu ça, voilà. Il y avait un œnologue en place, mais l'œnologue en place ne nous convient pas. Donc, à toi de... Et voilà, et je me suis mis vraiment dedans. Et ça a été une superbe expérience. Et du coup, après, j'ai continué à retourner... je suis retournée travailler pour eux pendant 6 vinifications.
D'accord. Et là, tu as quel âge à ce moment-là?
Et là, j'ai 26 ans.
26 ans, et donc 27. tu drives une belle équipe.
Oui.
Vous êtes combien en fait dans cette équipe?
Je sais pas combien on est. Je sais pas, une vingtaine, 25 ans, 25 personnes. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, là, je pars, et l'année d'après, je tombe enceinte de ma fille. Donc, maintenant, j'ai 28 ans. Et je me dis, bon, je veux quand même y aller. Et du coup, je suis quand même retournée en Sainte faire les vinifs là-bas.
C'est joli. Si tu devais voyager, allez.
Voilà. Et donc, bon, c'était... mais bon, j'étais... Voilà,
j'étais dans même... le flow, donc
ouais,
ça se passait.
Ouais, mais c'est vraiment, en fait, j'aime... Voilà, le vin, c'est quand même ma vie, malgré tout. Et après, du coup, j'ai eu ma petite fille qui est née en août. Mm-hmm. Et je suis quand même, l'année d'après, je suis partie avec ma fille de 6 mois ou de 7 mois faire les vinifications là-bas avec moi. Ouais.
Super.
Voilà, donc j'avais une nounou qui s'en occupait. Et, oui. Et donc, bon, voilà, je suis partie là-bas. Après, je suis partie, elle avait 1 an et demi. Je suis repartie, elle avait 2 ans et demi. Mm-hmm. J'ai fait voyager ma fille. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, après, ça s'est arrêté aussi, il fallait que ça s'arrête. Et puis, là, non, une année, je suis repartie pour une autre cave, bon, là, juste un mois, en fait, parce que j'avais besoin de quelqu'un. Là, j'ai confié ma fille à ma maman, parce que c'était 3 semaines, un mois. Et je dis, bon, la pauvre, je vais pas la faire bouger. C'est un gros voyage. Voilà, on part, c'est l'hiver ici, on arrive là-bas, c'est l'été. Il y a quand même une période d'acclimatation qui est assez difficile.
L'altitude, peut-être aussi, non?
Non, parce qu'on n'était pas en altitude, mais je me souviens, ce qui était compliqué, c'est que quand je partais en février, il faisait nuit à 5h du soir, j'arrivais là-bas, il faisait nuit à 10h du soir.
Ouais, c'est des phases.
Pour ma fille aussi, c'était compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, ça a fait la jeune fille qu'elle est aujourd'hui aussi.
Mais bon. Jolie, une belle, voilà. Un beau soleil.
Voilà.
D'accord. Et donc, de cette expérience au Chili, pareil, tu en as pris, non, tu as rempli ta boîte à outils à chaque fois,
voilà.
Ça a été ça.
Voilà, ça a été ça, et c'était... oui, et puis, après, en fait, en même temps, je retrouvais toujours les mêmes gens, je m'étais vraiment attachée à ce pays, aux gens, en fait, ma reine de mon fils est chilienne, voilà, j'ai une affection particulière pour les gens là-bas et pour ce pays, voilà.
Et est-ce que tu penses, ce qui est intéressant, c'est dans ces pays-là, comment la femme est accueillie dans le monde du vin?
Alors, c'était pas facile au début. La première année, quand je suis partie, je me suis dit plus jamais. C'était très macho. J'ai eu beaucoup de mal à m'acclimater quand même. Hein. Je parlais très très mal l'espagnol, donc j'avais du mal. Hein. Parlait vite, je comprenais pas, donc l'autorité, enfin en tout cas ma petite autorité, celle qu'on m'avait demandé d'avoir en tout cas, était compliquée, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose se passait mal, j'essayais de leur dire, oh, ça va pas, bon, avec mon espagnol, et derrière ils me baladaient en fait, parce qu'ils me répondaient, je comprenais pas, et c'était très compliqué, et c'était quand même très macho, après la première année, j'ai dit, non, je ne retournerai plus dans ce pays.
Et tu étais la seule femme à l'époque sur le...
Ouais, dans la cave, j'étais une des seules. Ouais. Après, il y avait celles qui travaillaient au labo, mais dans la cave, j'étais la seule. Ouais.
D'accord. Et comment tu as pris sur toi?
Ah, mais j'ai pris sur moi, j'avais pas le choix, beaucoup. Ouais. J'étais très seule, en fait, aussi. Voilà, je logeais toute seule, j'étais assez seule. Ouais. Assez seule, et je communiquais mal avec les gens, donc je devais beaucoup de mal à lier. Et puis après, je travaillais 10h, 12h par jour, donc je sortais pas. C'était très particulier. Ouais. La première fois où je suis sortie... De la cave, parce que je logeais sur la cave, en fait, pour prendre le bus, pour aller à la ville. Oh, j'avais l'impression de sortir d'une prison, tout le monde allait m'attaquer, en fait, c'était très bizarre, quoi. Mais bon, voilà, après, on prend sur soi, et puis, je suis un peu... Je ne suis pas d'une nature très inquiète, donc, je me suis dit, ça va bien se passer. Mm-hmm. Mais je ne voulais plus y retourner. Mais bon, après, derrière... Après, on oublie aussi les mauvais moments. Avec le temps, on garde les bons souvenirs. Et puis, je veux surtout cette opportunité-là de me dire, bon, écoute, voilà, j'aime bien l'aventure, j'aime bien les défis, j'aime bien... Et du coup, notre ami m'a dit, je devais partir pour une cave et gérer la cave de blanc. J'ai dit oui, de suite, voilà. J'ai peut-être un petit côté où j'oublie le négatif derrière.
Oui.
Voilà.
Tu passes à autre chose.
Carrément.
Rapidement.
Ouais. Des fois, ça porte à préjudice parce que des fois, c'est pas mal d'oublier se souvenir de mauvaises expériences pour pas les refaire. Mais bon, oui. Et puis les gens, en fait, c'est vraiment même quand je suis repartie l'année d'après, j'en ai bavé aussi avec l'espagnol. Honnêtement, parler en tête à tête, ça va parce que les gens font l'effort, mais dès que les gens parlent entre eux, c'est très compliqué. Mais voilà. Mais ceci dit, ça se dépasse. Et aujourd'hui, je parle très bien l'espagnol. Du coup, on a appris ça. Donc voilà.
Et du coup, à ce moment-là, donc Jean-Marc, lui, est présent.
Jean-Marc et il voyage. Au début, il voyage pas. Donc, les 2 premières années, je suis partie toute seule au Chili. Et du coup, au bout de la 3e vinification, lui aussi est venu.
D'accord.
Parce que la société, l'entreprise pour laquelle je travaillais, avait 4 sites de vinification au Chili. Et du coup, ben, lui est parti faire le, du coup, s'occuper plus d'une cave de rouge. Moi, je me restais toujours dans les blancs. Je faisais
Mais c'était
quasiment que des
rassurant
blancs.
de le savoir aussi dans le pays
Oui,
que...
c'était bien, bien sûr. Alors après, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. On circulait peu, donc on ne se voyait pas trop parce qu'il travaillait à 2 heures de là où j'étais. Mais les week-ends, on se rejoignait. Donc c'était bien, voilà. C'était chouette.
Ouais,
C'était de
c'est
belles expériences, honnêtement. Voilà.
ah, j'en doute pas.
Ouais.
Donc, voilà, États-Unis, Australie,
Afrique du
Afrique
Sud.
du Sud,
Chili,
Chili.
voilà.
Et quel est le point commun de ces quatre
Quel est le point commun? Je pense que le point commun, c'est la richesse de ce que j'ai appris, en fait. Déjà, l'ouverture d'esprit, voir des cultures différentes. Le point commun œnologique, c'était ces caves qui étaient quand même, voilà, assez récentes, très bien équipées. Voilà, il y
D'accord.
avait beaucoup plus de technologie que ce qu'il y avait en France à l'époque.
Et c'est vrai que le marketing était une avancée dans ces pays-là. C'est eux
Oui.
qui nous l'ont appris quelque part.
Oui, il y avait. Ouais, c'était. Voilà. Mais en fait, vu qu'ils partaient pas de. Il n'y avait pas le passif que nous on avait, hein, qu'on a sur le vin. C'est quelque chose de quand même relativement récent, on va dire. Voilà, c'est une autre philosophie. Voilà, on n'a pas la tradition des appellations, on n'a pas la tradition de certaines étiquettes, on n'a pas la tradition de packaging, on innove en fait. On crée des choses qui sont plus modernes. Voilà, et du coup, ce qu'on avait moins en France à l'époque, après ce qui est arrivé dans le Languedoc plus progressivement, puisque voilà, le Languedoc a eu cette bascule sur la bouteille, sur la qualité, sur des packagings
D'accord.
nouveaux, sur l'export, enfin voilà. Donc, c'était les
D'accord.
prémices.
Alors, tu as dit une phrase, quand j'ai débuté, on me prenait pour la stagiaire, pas pour l'œnologue. Il y a du machisme, mais quand une femme parle du vin, c'est un avantage.
Ouais. Mais j'arrivais jeune, moi j'avais 25 ans dans des caves coopératives et je venais, en fait je travaillais à l'époque, ouais, j'ai aussi fait travailler pour un négociant dans le Narbonnais et j'intervenais dans des caves coopératives pour le compte du négoce pour suivre certaines cuves, certaines parcelles que le négoce allait acheter. Voilà, c'est difficile de s'imposer quand même, hein. Voilà, ça se faisait tant bien que mal, hein, dans tous les cas on navigue. Voilà, ça se passait plus ou moins bien selon. Il y a des personnes qui étaient des hommes qui étaient assez machos et avec lesquels c'était très compliqué. Hein.
C'est
Mais
ça.
bon, oui, c'était quand même un monde. C'est quand même un monde d'hommes, quoi. Vraiment.
Alors justement, moi j'aime à dire que les femmes marquent notre époque dans l'univers du vin et avec ton expérience, ben, qu'ont-elles apporté à cet univers du vin?
Peut-être une perception différente. Je sais pas, j'aime bien le mot finesse, de la rigueur, de la finesse, pas de la délicatesse, mais il y a quelque chose de. Moi, j'aime bien, voilà, vraiment ce travail du détail, de l'assemblage, des arômes, voilà, de travailler ce détail-là. Tiens, tous les petits détails qu'on peut faire pour faire attention en fait dans toute la vinification. Voilà, je décris. Après, c'est difficile de mettre vraiment les hommes et les femmes, vraiment de faire cette dichotomie dans ce qu'on peut apporter. Mais voilà, après, je pense que aussi on a approuvé en fait. Voilà, moi, je prends l'exemple du Chili. J'avais tellement approuvé de ce que je pouvais faire que voilà, j'ai travaillé, j'y étais tout le temps en fait, tout le temps, tout le temps. Et comme on a moins de droit à l'erreur, parce que effectivement, maintenant ça me revient, mais je travaillais les dernières années. Et du coup, il y avait un jeune œnologue chilien qui était arrivé, donc qui était jeune, qui était un homme, et avec qui c'était très compliqué parce qu'il avait besoin de lui montrer qui il était. Et elle, bon, c'est bon.
La
La
française.
française, là, moi aussi je vaux. Et du coup, c'était très compliqué avec lui. Du coup, il y avait vraiment ce besoin de. On ne peut pas lâcher, c'est-à-dire on ne peut pas faire les choses à moitié parce que sinon, la moindre erreur, on va vous la souligner. Donc ça demande. Enfin, voilà, il faut peut-être travailler plus que l'homme pour que tout soit parfait, entre guillemets, pour pas qu'on puisse être pris en défaut.
D'accord.
Parce que la moindre erreur, elle est. Ah ben tiens,
C'est
regarde,
fatal.
elle a fait l'erreur, moi je ne l'aurais pas faite, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a, et pas que dans le monde du vin, hein, je pense que la femme a plus à prouver que l'homme, donc du coup, elle va peut-être bosser plus et aller plus dans le détail et la perfection. En tout cas, elle a peut-être plus besoin de cette perfection-là pour dire, c'est bon, Là, tu vas pas me prendre en défaut parce que je sais ce que j'amène. Voilà. Et après, voilà, moi, en tout cas, ma sensibilité, moi, j'ai toujours aimé les parfums. Je suis basculée dans le monde de l'œnologie, mais j'étais passionnée de parfums hein, quand j'étais jeune. Enfin, en tout cas, des arômes, des parfums. Et du coup, voilà, j'aime aller travailler ce petit détail des arômes. Voilà. Et c'est pour ça que je vais plus sur les blancs et les rosés, parce qu'on est plus sur l'aromatique, sur en rouge, plus l'élevage. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ma sensibilité à moi, elle va là.
D'accord, d'accord. Alors, dans cette vie trépidante hein, de voyage, le domaine Lafage, vous l'avez construit donc avec Jean-Marc, ton mari. Donc, stratégie, mise en place, on développe. Aujourd'hui, tu m'as dit que vous avez 70 employés. Comment fais-tu pour trouver l'équilibre de la vie familiale? Tu as des enfants en bas âge à l'époque, mais maintenant, ils sont...
Oui.
À la fois des jeunes adultes ou encore adolescents, comment en tant que maman et femme active, femme
je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de femmes qui travaillent en fait, c'est comment on jongle en fait entre l'entreprise et la professionnelle et la maman en fait. Voilà, entre parfois c'est du déchirement. C'est voilà, se faire aider aussi par les grands-parents dès qu'on peut, c'est je quitte tout d'un coup, hop, vite, il faut que j'aille chercher mes enfants, donc le bureau reste tel quel, l'ordinateur est allumé, les dossiers, la réunion est quittée parce que vite, il faut aller chercher les enfants, et puis voilà, des fois c'est un peu à leur détriment malgré tout, malheureusement, mais voilà, c'est un équilibre en permanence à trouver. Il y a l'école, il y a les vacances, il y a les grands-parents, il y a la présence aussi qui est là. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme un homme, entre guillemets, mais et parfois c'est un peu le danger d'essayer de faire comme les hommes et on se perd parce qu'on n'est pas des hommes, parce qu'on voudrait l'être. Parfois en se disant, mais non, moi aussi, hein, je peux pas rester 7h, 8h du soir fier de mon travail parce que j'ai mes enfants, donc du coup, j'avance moins vite. Hein, du coup, je ne peux pas faire la même chose, mais en même temps, on n'est pas des hommes, et heureusement. Et dans mon parcours de vie, j'ai aussi fait pendant 5 ans une formation de psychothérapeute, parce que quand j'avais 40 ans, en fait.
D'accord.
Voilà. Et ça a été aussi, la vie, on a tous des parcours de vie, et j'ai toujours été passionnée par la psychologie, l'humain, voilà, comment fonctionnent les interactions, les relations, moi, la relation avec moi-même dans un premier temps déjà.
Parce que ça commence, est-ce que c'était ça, la crise de la quarantaine?
Oui, c'était ça. Pour moi, c'était ça. C'était un peu une remise en question de voilà, quel sens je donne à ma vie, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le... Voilà, l'œnologie, c'était bien, mais je pense qu'à un moment, je m'étiolais un petit peu là-dedans et j'ai eu besoin en fait de faire ça et, pour moi-même, pour ma famille, pour... voilà. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai aussi, du coup, en parallèle, exercé l'œnologie et la psychothérapie. Okay. Je continue un peu, mais là, je relaisse cette partie-là parce que c'est un petit peu trop pour moi de faire les deux. Ce parcours-là, vu que la formation a duré 5 ans, que c'est vraiment quelque chose... On travaille avec le corps, le ressenti, et c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma façon d'être. En fait.
C'était un aboutissement pour toi, une sorte de révélation.
Ouais. Oui, c'était un parcours très personnel, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui et qui était très important, voire fondamental pour moi de faire.
À cet instant-là, précis.
À cet instant-là, pour la femme que je suis en fait.
Parce que tu penses qu'à ce moment-là, la femme de 40 ans qui s'était déjà vachement épanouie dans l'œnologie, la vinification, les voyages dans le monde. Il y a eu ce moment où tu t'es posée et tu t'es dit qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon chemin?
Oui, c'est ça.
Tu étais à la croisée de plusieurs chemins.
Oui, voilà, j'avais mes deux enfants, mon métier. J'ai trouvé plus trop de sens, en fait, dans ce que je faisais. Je sentais que voilà, je perdais un petit peu le... je pense que je travaillais aussi avec mon mari, donc c'était pas si évident en fait de trouver ma place là-dedans, de pas être la femme d'eux ou de travailler dans un monde d'hommes, d'être une maman et quelle femme je suis, voilà, quelle femme j'étais à ce moment-là, qu'est-ce que la femme que je suis, que j'étais, avait envie vraiment de faire pour elle. Et du coup, voilà, ça m'a permis vraiment de repositionner les choses, de sortir un petit peu de l'entreprise aussi à ce moment-là, par cette formation, par ce travail, pour mieux en fait y revenir avec une place différente en fait.
D'accord.
Voilà.
Parce que du coup, tu avais mis le domaine Lafarge entre parenthèses.
Je continue à y être. J'ai jamais lâché, mais j'ai été moins. Effectivement, je suis passée à mi-temps. En fait, ça correspondait à l'âge. Mon fils, ça fait 6 ans. Ma fille rentrée au collège. Et j'avais besoin aussi, voilà, de me dire aussi, j'ai besoin de passer un peu plus de temps avec eux. Donc, voilà. Du coup, je me suis un petit peu éloignée quand même du domaine. Sans le quitter, hein, j'ai continué à faire les vinifications, j'ai continué à suivre les vins. Mais voilà, j'étais un petit peu moins dedans, en fait.
D'accord.
Voilà, le domaine se restructurait aussi, grossissait. Voilà, il faut voir qu'on est parti au départ tous les deux, avec Jean-Marc. Hein. Et pour finir aujourd'hui avec une entreprise qui a 70 salariés. Donc, c'était une remise en fait en permanence en question de la position de chacun, c'est-à-dire d'une fonction où j'avais voilà, vraiment à tirer des tuyaux au départ, à tout faire dans la cave, ensuite à gérer, ensuite à dire bon, maintenant là, il faut prendre quelqu'un, donc ben, je dois déléguer, donc je change de position, donc après je m'occupais de tous les achats, et puis non, finalement, il faut prendre une personne qui s'occupe des achats, donc je m'occupe plus des achats. Et il faut accepter de pouvoir parfois en faire moins et puis de trouver cet équilibre et de voilà, mais c'est pas évident, c'est pas facile, mais parfois l'ambition professionnelle elle est un peu au détriment des enfants. Voilà, je pense que peut-être que je ferais différemment.
Et alors, je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus basique, mais quand même hyper important. Donc aujourd'hui, tu es quand même œnologue et femme leader dans ton domaine.
Oui.
Comment fais-tu pour conserver cette énergie au quotidien? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as mis en place justement des techniques qui te permettent d'avoir cette énergie et positive, régulière? Comment fais-tu?
Oui, je fais du sport.
Ouais,
voilà.
C'est important.
En fait, je nage. J'ai la chance d'avoir une piscine à 3 km d'ici qui est extraordinaire, qui est découverte. Et c'est mon ressourcement en fait. J'aime nager et ça me fait du bien, ça m'évacue la tension. Voilà, j'aime aller marcher aussi, me ressourcer. Entre autres, c'est des choses qui me font du bien. Voilà, et j'essaye là, notamment en cette période de vinification, voilà, d'avoir un rythme de vie quand même assez sain, on va dire, de solitude et voilà, de revenir à moi.
Ouais, se recentrer.
C'est ça.
Quel conseil donnerais-tu à nos chers auditeurs et auditrices pour aujourd'hui devenir leader dans son propre domaine?
Je crois qu'en fait, la base, c'est un peu la passion, en fait, et d'aimer ce qu'on fait avant toute chose, de trouver ce qui nous plaît. Et ensuite, il y a une bonne dose de travail, quand même. Pour y arriver, voilà, je crois que c'est la passion, le travail, savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est assez fondamental, voilà, de trouver des personnes sur qui on peut compter, surtout quand on se développe petit à petit. C'est vraiment, voilà, on démarre, on fait ce que je disais tout à l'heure, tout dans une cave ou tous les papiers, etc. Et petit à petit, on grandit, il faut dire, ben, tiens, il va falloir que je délègue. Donc, c'est comment trouver la personne qui va pouvoir, sur qui on va pouvoir compter, en fait, pour, comme des piliers, en fait. Voilà, l'ouverture aussi, l'ouverture d'esprit. La curiosité. Pas être obtus sur un point, d'écouter, de prendre des conseils, de se faire sa propre opinion. Voilà, je pense que c'est... un petit peu les bases de...
D'accord. Est-ce que tu aurais un secret de femme à partager?
J'en ai certainement beaucoup. Faut juste que ça me vienne. Se faire confiance. Savoir s'écouter, en fait.
Ouais.
Savoir écouter la petite voix, en fait, qu'on a toutes, ou qu'on a tous, certainement. On parle du sixième sens ou de l'intuition féminine. Je pense qu'elle existe, elle est, et en fait, de pouvoir l'écouter, cette voix-là, on sait toutes quand on fait juste ou faux, ou quand on va dans le bon sens, ou la petite voix qui dit non, non, là, il ne faut pas y aller, mais on ne l'écoute pas en général. Donc on se plante, on se prend des claques dans la figure, et je dis, ah oui, c'est vrai, je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille. Bon, après, peut-être qu'on a besoin de ces claques-là et de ces fausses routes pour pouvoir revenir sur la bonne route, mais ouais, c'est peut-être d'écouter notre voix qui, et que tu parlais de méditation à juste titre, et la méditation, c'est savoir revenir à soi et écouter. Et ouais, écouter notre voix intérieure qui nous guide et qui, on sait à l'intérieur. Alors, c'est la voix, c'est le senti, c'est le truc qui, ça serre le cœur en disant non. Non, mais oui, je vais le faire parce qu'on me demande, parce que je suis gentille, parce que je suis une femme qui aime, parce que voilà, donc je vais le faire, mais à l'intérieur, on sait que c'est non, 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 on n'y va pas. Et voilà. Et du coup, on se prend quand même pas mal de claques. Et voilà, c'est peut-être développer cette écoute de soi.
Et là, pour revenir juste à l'entreprise, donc aujourd'hui, il y a 70 employés. Comment se passe le binôme Jean-Marc et Liane?
C'est une bonne question. Il se passe bien.
Ouais.
Alors, Jean-Marc et moi, c'est une longue histoire. Hein. On s'est connus sur les bancs de l'université. Et on a toujours cette passion commune voilà, du vin qui nous anime. Et voilà. Et pour laquelle, en fait, on a fait vraiment un binôme domaine Lafage. C'est quasiment 30 ans de binôme. Hein. Donc, ça n'a pas toujours été, c'est pas toujours simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Après, voilà, on fait front tous les deux vraiment pour l'entreprise. Je crois que il y a une unité commune pour le domaine en fait. C'est comme un bébé, c'est comme 10 enfants en fait. Mais on a toujours protégé cette entité-là pour la qualité des vins. Voilà, on déguste tous les deux et on alimente notre dynamique de création des vins. Enfin voilà, toujours il y a comme une mayonnaise qui prend quand on parle des vins tous les deux. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et voilà, mais je pense que la cohésion, tous les deux, on est comme deux jeunes qui se sont rencontrés, qui ont fait front contre tous les barrages ensemble. Et je pense que ça sera tout jamais, quoi. En tout cas, je l'espère.
Et quand vous avez débuté ensemble, en reprenant le domaine Lafage, justement, en construisant le domaine Lafage, finalement, est-ce que vous aviez cette vision 20 ans plus tard de ce qui est devenu aujourd'hui Lafage?
Non. Non, je pense pas. On nous aurait dit on en sera là. Non. Non, non, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait très rapidement aussi, mais personne ne pouvait prédire de ça.
Et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière,
je dis waouh. Waouh, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est impressionnant. Mm. Après, je pense que parfois, on ne réalise même pas parce qu'on l'a vécu tellement de l'intérieur que les gens extérieurs doivent avoir une vision totalement différente de qui nous sommes et de ce qu'on a. Parce que voilà, je pense que parfois, les gens nous disent qu'on est souvent... on est humble, mais je pense que pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante. Voilà, de savoir d'où on est parti, de savoir ce qu'on fait, de savoir qu'on est en permanence remis en question aussi, que rien n'est acquis, que voilà, personne ne pouvait prédire il y a 6 mois qu'on allait être confiné, enfin voilà, et que la vie, en fait, voilà, on ne maîtrise pas grand-chose. Et je pense que ça a été vraiment un exemple de se dire, mais finalement, on croit qu'on maîtrise tout, le monde, mais on ne maîtrise rien du tout. Et il faut rester toujours, voilà, je pense... pas vigilant, mais bon, savoir ce qu'on a et savoir d'où on vient et savoir que voilà, rien n'est acquis. Et tu me posais la question, je voyais succès, réussite, c'est quoi? Tout est relatif. Donc voilà, c'est important pour nous. Pour moi, ce qui est important, c'est que voilà, la relation et l'entreprise continuent à être pérennes, qu'on continue à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que c'est la base, que ma famille aille bien, que mes enfants soient bien. Après, le reste, c'est... Voilà, je trouve qu'on a beaucoup travaillé, on a aussi beaucoup de chance d'en être arrivé là.
Oui.
Donc, c'est aussi savoir reconnaître ça.
C'est beau, félicitations. Ouais. Parce que vu de l'extérieur...
Non, mais c'est clair. Oui, ouais, c'est très beau. Non, non, mais c'est clair que c'est un joli domaine, c'est une très belle entreprise. Hein, voilà. C'est une chance de travailler dans ce monde-là. Enfin, je trouve qu'en tout cas, pour nous, c'est beaucoup de plaisir aussi. Voilà, c'est aussi le plaisir d'élaborer les vins, c'est aussi le plaisir de voir les gens qui aiment et qui... C'est une très très jolie reconnaissance en fait. Ah, je me suis régalée avec votre vin, moi, j'ai passé un bon moment et c'est un vrai plaisir aussi pour nous, parce que c'est une fierté.
C'est l'aboutissement finalement.
Ben oui, carrément, mais de savoir que les gens aiment. Mmh. Et puis voilà, après créer des bouteilles aussi, c'est un vrai plaisir.
Petite question philosophique, quel est ton pourquoi le matin?
Quel est mon pourquoi?
Qu'est-ce qui t'anime le matin? Qu'est-ce qui te fait vibrer?
Bon, déjà, voilà, je suis heureuse de venir ici, ben, de retrouver l'entreprise, voilà, de tout ce qui va se passer dans la journée. Bon, là, en plus, c'est une période particulière, donc tous les matins, de retrouver qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, comment on les vend, de les goûter, dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire dessus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc il y a toute cette créativité, donc peut-être la créativité qui va me faire me lever. Après je pense que je suis une personne qui aime la vie aussi, les projets, le plaisir de faire le métier que j'aime, et peut-être l'inconnu aussi, de se dire ben voilà, tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui de nouveau. J'aime bien me dire ben tiens, il va se passer quelque chose auquel je m'attendais pas aujourd'hui, ou un truc. Voilà. En fait, j'aime bien, moi, que, voilà, ce que la vie peut nous amener qui n'est pas prévu. Ouais. Ouais. Me dire, tiens, hop, des petits coups de pouce, des petits trucs, des rencontres. Comme, voilà, on s'est rencontrés par hasard l'autre soir, et je trouve ça génial, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Ouais.
Parce que c'est ce qui fait le piment de la vie, quoi, les choses auxquelles on ne s'attend pas. Et voilà, dire non, tiens, je suis allée à tel endroit, mais tiens, et après de dire tiens, ça, j'ai rencontré telle personne qui va m'amener ça, et je crois aussi de voilà, découvrir de nouvelles choses, apprendre aussi, ouais,
la curiosité.
Ouais.
On va terminer par des notes légères.
Allez.
J'aime bien un petit peu, alors que ce soit musical ou un livre, qu'est-ce qu'Eliane aime bien nous faire partager?
Alors sur la musique, qu'est-ce que j'aime bien? Alors, ces derniers temps, moi, je me mettais, tu vois, alors des vieilles choses style ABBA.
C'est bon, ça.
Mamma mia. Et en fait, je trouve ça très léger. Et j'aime bien me mettre ça dans la voiture. Enfin, ce genre de musique. Parfois, des musiques un peu... voilà, latino, des choses assez gaies. J'aime bien aussi Sia, là, toutes les playlists de Sia, je trouve ça assez... voilà, ça me fait du bien, en fait.
Ça fait vibrer.
Voilà, qui me font vibrer.
ton dernier coup de cœur de vin, un vin hors Lafage, évidemment, que tu as goûté ces dernières semaines et pour lequel tu as fait « waouh ».
Dans le Priorat, il y a le Clos Erasmus, en fait, qui est un vin rouge pour qui j'ai fait « waouh ». Que j'aime beaucoup. Après, il y avait un Sancerre de chez Daguenau aussi, que j'aime beaucoup.
Forcément, quand on est fan de Sauvignon.
Voilà, c'est ça.
Eliane, je te remercie pour cet entretien. C'était vraiment super agréable, et une conversation...
Merci à toi, Aurélie.
Authentique, sincère, comme je les aime.
Bon, bah, t'as mieux. Écoute, c'était un vrai plaisir pour moi. Merci.
Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres, et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. Et si Dionysos était une femme? À très vite pour de nouvelles écoutes.